Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Yes, le podcast des warriors qui dégomme le patriarcat. Tous les mois, on célèbre nos victoires sur le sexisme. Je suis Margaïde et pour cet épisode hors série, je suis accompagnée de Malix, cofondatrice de Culo Créative. Salut.
Salut.
Alors, est-ce que en 2 mots, tu peux présenter Culo pour celles qui ne connaissent pas?
Ouais, Culo, c'est un média que j'ai cofondé avec Jess, à qui je pense fort ce soir, en 2020. Et en fait, on est sur Instagram en newsletter et on documente tout ce qui est genre, sexualité, d'un point de vue féministe. Concrètement, c'est ça.
Super intéressant. Donc, abonnez-vous à tous leurs comptes. Alors, cet épisode est enregistré en public à Marseille, à la maison, bébé. Bonjour tout le monde.
Ouais,
ils sont là. Un grand merci à toute l'équipe de l'Éco-Nature qui nous accueille. Alors, pour cette période estivale, on a eu envie de prendre l'air, de filer sur les routes, cheveux au vent, à nous la liberté au guidon de nos motos ou de nos vélos. Attention, il y a débat. On va tenter de semer le patriarcat en compagnie de nos deux invités. Alice.
Bonjour.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien.
Alors, tu viens de loin?
Moi, je viens du 8e.
8e arrondissement de Marseille.
Ça va, exactement. Pour les Marseillais, c'est du côté plage.
T'es venue comment?
Je suis venue en voiture parce que mon scooter, comme ça je cumule, a rendu l'âme cet après-midi.
Alors, ok, tu conduis un scooter, une voiture, mais tu es motarde.
Je suis motarde.
C'est pour ça qu'on t'a invité. Et tu organises Femmes et Moto. Alors, c'est le premier festival français de bikeuses en mixité choisie, donc sans hommes cis.
Sans hommes cis.
C'est important, qui se tiendra donc du 23 au 25 septembre dans les Hautes-Alpes.
Exactement, à côté de Gap.
Et juste à côté de moi, Alex. Salut.
Salut.
Comment ça va? Et tu es venue comment? Même question.
Alors moi, je suis venue à pied parce que vraiment, pour le coup, j'habite à 200 mètres. Donc même si j'avais voulu prendre mon vélo, ça aurait été un peu ridicule, je crois.
Donc tu es marseillaise.
Oui.
Tu es cycliste.
Oui.
Tu es féministe.
Oui.
Donc on peut dire que tu es une cycloféministe marseillaise.
On peut le dire. Ouais. Tout à fait.
Et tu portes également un très chouette projet qui s'appelle les Écrovisses, qui vise à rendre la mécanique et la réparation des vélos accessibles à tous, donc femmes et pluralité de genre.
Tout à fait, et aussi aux hommes. On acceptera aussi les hommes cis de temps en temps, dans certaines permanences, mais ce n'est pas notre objectif principal. L'objectif principal étant que les femmes se réapproprient des outils qui ont été... Donc on nous a arraché ces outils des mains. On va les reprendre.
C'est super. Allez, on va parler de vos projets et surtout partager nos expériences et nos victoires, parce que la lutte féministe avance en roulant. Allez, let's go. Alors, l'idée de cet épisode, c'est parti d'une idée de Malix. En fait, tu voulais faire un épisode sur la moto. Et moi, franchement, très honnêtement, je me suis dit, mais Ouais, je me suis pas sentie concernée en fait. Je me suis dit mais pourquoi ? Enfin, et surtout je me dis mais comment on peut kiffer d'être sur un engin hyper bruyant et hyper polluant au moment où la planète va mal ? Franchement là, je voyais pas du tout l'intérêt en fait. Faut être franche. Et alors que toi, la moto, ça fait partie de ta vie en fait.
Ouais, je pense que la première fois que j'ai été sur une moto, j'avais à peu près 6 ans. Donc clairement, j'ai grandi avec. À la base, c'était une petite Piwi 80, donc toute petite. Et donc, aujourd'hui, je roule encore sur une moto un peu plus grande. Mais ça fait partie de ma vie, oui.
Du coup, on s'est dit, allez, puisqu'on n'est pas forcément raccord sur nos moyens de transport, parce que moi, voilà, je suis cycliste. Mon moyen de locomotion au quotidien, c'est vraiment le vélo. Je voyage aussi pas mal à vélo. On s'est dit, allez, on va débattre, n'ayons pas peur de nous battre, d'échanger nos opinions. Et on s'est dit qu'on allait ramener chacune une invitée, donc on a présenté brièvement tout à l'heure, mais qu'on va vous présenter un peu plus largement maintenant. Donc Malice, est-ce que tu peux présenter ta team moto, ton invité moto?
Absolument. Voilà, c'est pour ça qu'on nous présente, tu vois. On fait du bruit, on sent mauvais, on est là, on nous représente.
Donc dans ma team, j'ai choisi Alice qui a accepté de venir. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Donc Alice, toi, tu roules en Harley depuis 15 ans.
Exactement. Je n'ai toujours roulé que en Harley.
Et que pendant la belle saison, si je
ne m'abuse. Et que pendant la belle saison, exactement. Le froid, la pluie, tout ça, ça m'intéresse peu.
Une vraie Marseillaise, quoi.
Oui, tu vois, seulement depuis 4 ans, mais j'avais déjà le réflexe de la chaleur avant. Ouais, je roule surtout l'été parce qu'en fait, moi, je fais surtout des voyages plus que de la balade ou du quotidien. Et donc, du coup, de mai à octobre, c'est la meilleure saison pour aller loin et découvrir des paysages et des contrées sous le soleil, de préférence.
Bah d'ailleurs, on a eu de la chance de t'attraper au vol parce que là, tu viens de poser ton casque.
Oui,
si je m'abuse.
C'est ça. Je reviens des Pyrénées. J'étais au festival des Wheels and Waves, qui est un grand festival motosurf à Biarritz. Et je pars la semaine prochaine à Morzine, dans les Alpes, pour les Harley Days, qui est un grand festival de Harley dans les Alpes.
Trop bien. Et donc, toi, pour donner un peu plus de contexte, du coup, tu es freelance, t'écris aussi pour le guide Michelin. Tu fais le podcast Au coin du pneu. Et en fait, il y a 3 semaines à peu près, on roulait ensemble parce que tu organisais les pétrolettes. Donc, c'est un rallye international lancé en Allemagne.
Ouais, le rallye, alors c'est pas nous qui avons inventé le nom, hein, c'est les Allemandes. Les pétrolettes, c'est un festival 100% féminin qui existe à Berlin depuis, je crois, 2017. Et quand il y a eu le Covid, elles n'ont pas pu faire le festival. Mais elles commençaient à avoir beaucoup d'influence en Europe, en tout cas, et elles se sont dit en fait on va se servir de notre visibilité pour montrer que les femmes sont actives et on va lancer. Elles ont pris le pari un peu fou et ça a cartonné. Faites le rallye pétrolette dans votre ville. Comme vous pouvez pas venir jusqu'à chez nous en Allemagne, et faites-le chez vous. Cette année, je crois qu'elles ont mobilisé 2000 villes dans le monde entier, jusqu'en Australie, ah ouais, jusqu'au Canada, au Brésil. Donc ça a cartonné. Et nous, c'était la deuxième année que je l'organisais à Marseille Aix. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré, que j'ai vraiment roulé avec Malix. On a fait un tour jusqu'aux Gorges du Verdon. C'était très beau.
Ouais, c'était magnifique. Et c'est vrai que moi, c'était la première fois depuis super longtemps que je reroulais dans un groupe de motos. Enfin, c'est vrai que je roule d'habitude seule. Et du coup, toi, en plus, tu organises, comme Margal disait, le festival Femmes et Moto. Et en fait, est-ce que tu peux dire un peu, peut-être en intro, pourquoi ? Enfin, tu vois, le pourquoi tu organises du coup des événements, même un festival, le premier festival de France de motardes. Du coup, rouler entre motardes, quoi.
En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours roulé quasiment toute seule. Pendant très longtemps. J'ai commencé bien sûr avec des petits groupes, mais comme je suis passée freelance, j'avais du temps et puis je voulais partir et puis je trouvais personne pour partir avec moi, donc je suis partie. Et un jour, dans mes voyages solo, j'ai voulu partir longtemps et loin et j'ai découvert le Festival des Pétrolettes en 2019 à côté de Berlin au mois d'août. Et je suis partie un mois de Marseille jusqu'à Berlin avec ma moto. Je me suis dit, je ne sais pas trop ce que ça représente, ce que c'est, ça a l'air sympa, j'ai le temps, j'y vais. Et c'était génial. C'était génial. Alors, niveau organisation, c'était un peu chaotique, mais finalement, on s'en fout parce qu'en fait, je suis arrivée là, il y avait 300 meufs, zéro mec, à part les quelques gars de la buvette et tout ça, parce qu'il faut quand même des gars. On vit dans un monde mixte, donc on a besoin d'eux parfois. Avec un concert de rock avec quatre femmes qui envoyaient tout ce qu'elles pouvaient. Sur scène, c'est mon meilleur souvenir de ce week-end-là. C'était hyper fort, en fait. Je suis rentrée de là, je me suis dit, OK, si je dois rouler en groupe, si je dois me déplacer, si je dois mobiliser mon énergie à faire des choses, pas forcément, j'avais pas du tout l'idée de le créer moi-même, mais à participer à d'autres choses, c'est dans ce cadre-là. Et j'ai réitéré l'expérience en Italie. Il y a un truc qui s'appelle le Women Motor Bootcamp. Qui est à Vérone, et pareil, l'année d'après, j'y suis allée, et là, c'était beaucoup plus organisé, beaucoup d'activités, des trucs que tu n'as pas l'occasion de faire, forcément, dans ta pratique de la moto, et toujours pareil, que avec des meufs. Là, en plus, changement de culture, donc c'était doublement intéressant, parce que, du coup, il y avait beaucoup de... principalement que des Italiennes, et je suis rentrée de là, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'en ai fait deux, il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, ça y est, ça commence à vivre, donc il y a quelqu'un qui va faire ça, quoi. Et puis, non. Et un jour, je me suis réveillée avec l'idée complètement folle, et je me suis dit, OK, on va le faire. Ça fait 15 ans que j'ai le permis, j'ai passé 5 ans à Paris, assez active dans le milieu de la moto, donc je connais des gens chez les constructeurs, dans les marques, dans les motards, dans les motardes. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire jouer mon réseau, je vais trouver un lieu, on va le faire petit à petit, quoi. Et donc, voilà, donc, rendez-vous le 23 septembre. Je pense que ça va être cool. Ça mobilise beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de retours très positifs. En fait, ce qui est fou, c'est que visiblement, les motardes, elles attendent que ça. Mais il n'y avait personne qui était là pour l'entendre et aller au bout, quoi.
Et tu peux juste nous dire en trois mots ce qu'on va trouver sur place, enfin, ce que tu organises, du coup.
Alors, l'idée, c'est de se rassembler, mais pas juste comme les concentres standards plutôt masculines pour boire des coups et raconter le carbu, la cylindrée et les pneus de sa moto. C'est de se retrouver pour pratiquer des choses, pour faire des activités, des balades, des initiations off-road, cours de roller, initiation au yoga, détente musculaire après balade, concerts, baptême de l'air... Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Motarde, pas motarde. N'importe qui aime le milieu de la moto, qui n'a pas le permis, est la bienvenue parce que du coup, y a plein d'activités qu'on peut faire sans la moto, les 125 aussi. Et vraiment, moi, mon but, c'est que les motardes viennent, fassent ces activités et rentrent chez elles en ayant découvert qu'elles étaient capables de faire des choses bien plus que ce qu'elles n'auraient pensé toutes seules dans leur coin. En fait, il y a de plus en plus de motardes qui arrivent sur le milieu, qui passent leur permis là, dans les 5 dernières années. Il y a un gros boom, mais elles sont toutes seules, isolées. Et en fait, des fois, il suffit juste de sonner à la porte d'à côté, elles se rendent compte qu'il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Mais on manque juste de liens, en fait. Les groupes Facebook ne suffisent pas à rassembler ces femmes. Et j'espère, du coup, initier ça pour que chacune dans leur coin, elles aient envie, elles aussi, de faire des choses après, quoi.
Trop bien. Moi, j'ai trop hâte d'y être, en tout cas, en septembre.
Moi aussi. Ça voudrait dire qu'on aura bien bossé.
Voilà. Donc, l'équipe moto a été présentée. Maria,
oui.
Je te laisse prendre le...
Voilà.
Pour présenter... Ma camarade cycliste Alex. Alors toi, c'est un peu particulier parce que tu faisais de la moto avant et puis t'as laissé tomber. Alors t'as rejoint, t'as quitté le côté obscur de la force pour rejoindre le bon côté de l'histoire.
Exactement.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben voilà, c'était un rêve de passer mon permis moto parce que plus jeune, voilà, mes parents voulaient pas, c'était compliqué, puis après je travaillais, puis bon, voilà, plein d'impossibilités, puis pour mes 40 ans, je me suis dit, vas-y, je passe mon permis, et je l'ai eu, c'était super, je me suis acheté une moto, je passais des mois à chercher la bonne moto, celle que je voulais, et c'était super, j'habitais à Lille à l'époque, et puis je suis pas beaucoup sortie à Lille, parce que faisait pas très beau, la pluie, puis je me suis dit, en descendant en Marseille, ça y est, je vais pouvoir m'éclater, et en fait... La circulation à Marseille m'a fait peur. Je trouvais que les gens en scooter étaient complètement agressifs. Tout le monde était complètement agressif. Je me suis dit que c'était pas possible et que j'allais mourir là. J'avais pas envie de ça. Donc, j'avais pas envie de tomber, j'avais pas envie d'être mal. Je me suis dit, voilà, je laisse tomber. J'habite dans le centre. Je ferai de la moto plus tard, un autre moment dans ma vie. C'est pas le moment. Donc, le vélo est revenu très, très vite.
Et donc, malgré la circulation, le vélo, quand même.
Et oui, malgré la circulation marseillaise, oui, c'est un gros problème de chaque jour, hein, quotidien. On essaye de garder son calme, mais c'est difficile des fois.
Tu as moins peur en vélo qu'en moto ?
Oui, j'ai moins peur en vélo qu'en moto, ouais. Parce que c'est plus... Comment dire ? J'ai l'impression d'être étonnamment plus visible. Alors qu'en moto, j'avais l'impression d'être dans le flux d'une circulation. Et, alors que là, j'ai l'impression d'être plus visible, plus lente aussi. Et d'avoir une place peut-être plus à défendre contre des scooters, des voitures, des piétons, enfin toute chose ici à Marseille qui est un peu compliquée. Hein. L'espace est difficile à partager à Marseille.
Il est réservé à 99% pour la voiture, en fait, d'où les difficultés quand tout le monde.
Et il y a aussi, une problématique d'espace partagé, on va dire général, ici dans cette ville, que je n'ai pas ressenti dans d'autres villes, comme à Grenoble par exemple, ou comme à Lille, hein, tout simplement, ou dans d'autres villes avec d'autres mentalités. Là, il y a quand même un truc de c'est à moi, j'ai le droit d'être là, donc j'y vais. Donc que ce soit piéton, voiture, scooter, même vélo, on est tous un peu dans un truc de c'est à moi, il faut y aller, quoi. Donc je pense qu'il y a un petit boulot à faire de réapprendre à partager l'espace. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ouais, non, je me sens plus à l'aise en vélo qu'en moto. Plus en sécurité, j'ai un petit casque, un peu nécessaire quand même aussi à Marseille, je crois. Et puis voilà, avec un vélo bien entretenu, on est bien en fait. Hein. On avance, on va partout à Marseille.
Donc toi comme moi, tu as suivi de très très près la création d'un certain collectif cycloféministe qui s'appelle Les Déchaînés, et dont une des fondatrices est dans la salle avec nous ce soir, nous fait l'amitié d'être là. qu'est-ce que, pour toi, voilà, comment est-ce qu'on peut lier féminisme et pratique du vélo? Pourquoi c'était important pour toi que ce genre de collectif existe et qu'on puisse faire des vélorutions, c'est-à-dire des révolutions à vélo, finalement?
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est vraiment de faire la révolution à vélo, c'est de reprendre un espace dont on est exclu en tant que femme ou pluralité de genre. On est réellement exclu de cet espace-là. Et il faut trouver
tout l'espace public,
l'espace
en général.
Public, ouais, la route, le vélo, la pratique sportive. Hein. On peut même étendre jusqu'à la pratique sportive, en fait. Et je trouve qu'on en est complètement exclu et que c'est très très important que ce collectif existe pour qu'on puisse reprendre la route tout ensemble. Et ça l'est d'autant plus ici à Marseille où c'est vraiment très compliqué, je trouve, d'exister et de prendre cette place. Donc c'est d'autant plus légitime, je trouve, de se défendre par rapport à toute cette, on va dire, faune tout autour qui nous empêche un peu d'exister, voiture, moto, scooter. Et là, du coup, de pouvoir dire aux gens, en fait, prenez votre vélo, sortez, c'est un moyen d'autonomie, ça ne coûte rien, à part un vélo, et encore, on peut réellement trouver des vélos pas chers. Il n'y a pas de problématique d'essence, il n'y a pas de problématique de temporalité, de quoi que ce soit. Tout le monde peut en faire, ou presque, si ce n'est les personnes qui en ont été exclues, et souvent les femmes, les enfants, dans leur pratique. Donc, en fait, réellement, c'est un moyen pour aller partout qui ne coûte rien et qui, en plus, fait du bien au corps. Et je pense que c'était important que des femmes et des pluralités de genre se réapproprient complètement cet espace et cette pratique de sport.
Non, c'est vrai, notamment les vélorutions. C'est vraiment des moments. Enfin, moi, j'y participe régulièrement, et c'est vrai que c'est toujours des moments où on se sent un peu libéré. Enfin, d'être en groupe comme ça, on se sent forte, on se sent à sa place où on l'est pas forcément effectivement au quotidien.
Vous bloquez complètement la route en fait avec plein de vélos ou...
Alors non, en fait, l'idée. Enfin,
vas-y.
Voilà, je peux expliquer. Tu me dis si je dis une bêtise, mais c'est plus d'avoir un parcours sur lequel on circule en respectant quand même plus ou moins le code de la route, quoi. C'est pas une manif à proprement parler où on s'arrête, on bloque, c'est juste on est en gros groupe et on va d'un point A à un point B. Souvent il y a une pause apéro quand même. En fait, ça part d'un principe sur les vélorutions, alors pas seulement les vélorutions féministes, d'un principe qui est la masse critique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu atteins un certain nombre de vélos sur la route, tu as ta place, tu n'es plus invisible en fait. Et du coup, les automobilistes vont faire attention, vont te dépasser correctement. Alors que quand tu es tout seul, petit vélo sur la chaussée, tu n'existes pas. Et c'est là que ça devient dangereux. En fait, ça a été créé pour montrer que les vélos existent et qu'ils sont nombreux. Donc pour atteindre cette masse critique qui permet de rouler en sécurité, en fait. Et donc toi, en plus de ce projet-là, auquel tu as participé, tu es en cours de, on va dire, d'élaboration d'un projet que vraiment j'adore, parce que ça touche à quelque chose de très très important, qui est la mécanique à vélo, et donc la possibilité, en fait, d'être autonome avec son vélo, de savoir le réparer, ce qui est quand même très important, de ne pas être dépendant. Et donc toi, tu veux créer un lieu qui soit donc accessible à tous, donc femmes et pluralité de genre, pour pouvoir réparer le vélo. Pourquoi c'est important de le faire justement en mixité choisie, c'est-à-dire sans le regard des hommes cis?
Et ben alors, c'est très très important, parce que là encore, c'est des choses dans lesquelles beaucoup de femmes ne se retrouvent pas, ou pensent qu'elles ne savent pas faire, et que la mixité choisie, elle permet de créer un contexte, elle permet de créer une bulle de sécurité où on peut se tromper, on peut être sans jugement ou sans attente, sans penser que quelqu'un attend quelque chose de nous, ou en tout cas imagine qu'on sait le faire ou on ne sait pas le faire. En fait, c'est quelque chose, un endroit neutre, un endroit sécurisant, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire, et c'est ce qu'on a envie de faire réellement, pour que les personnes puissent prendre des outils et le faire sans se sentir jugées. Et qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas, et qu'on arrive ensemble à apprendre la mécanique, apprendre à réparer un vélo. On imagine que c'est très compliqué, alors qu'en fait c'est relativement simple. C'est juste prendre le temps de le faire, et prendre le temps d'écouter aussi la personne qui a besoin d'aide, et de pouvoir, on va dire, dans une forme d'éducation populaire aussi, lui donner les outils, encore une fois, pour qu'elle puisse embrasser, en fait, ce plaisir de réparer par soi-même, et en fait, et d'être complètement autonome, parce que c'est un vrai plaisir de réparer quelque chose quand tout d'un coup on a son vélo qui ne fonctionne pas. Je pense qu'en moto c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est des savoirs mécaniques qui ont, en fait, dans lesquels on a été complètement exclus, et de se dire qu'en fait on est capable de réparer son vélo, sa moto, n'importe quoi, bah ça rend très 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 heureuse, je crois. Enfin, moi ça me rend très 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 heureuse, et j'ai envie de partager ça avec les gens, parce que c'est génial d'être autonome, et surtout après, d'un point de vue écologique, recyclage, etc., etc. En fait, ça vient aussi dans une démarche de complètement écologique, d'arrêter de jeter des choses, de se dire qu'en fait chaque petite chose qui ne fonctionne pas, on peut le réparer, et qu'on a le savoir pour le faire. Bah, c'est génial. En fait, c'est du savoir pur, et c'est du savoir accessible. Donc pourquoi il faudrait s'en priver, en fait, tu vois? C'est là, en fait, on l'a, et c'est juste que d'habitude c'est les mecs qui l'ont, en fait, et là, bah non, en fait, on peut l'avoir, et on va le prendre, et on va le distribuer gratuitement à plein de gens, et ça sera génial. Voilà.
C'est le cas, Alice, aussi, la mécanique à moto accaparée par les hommes. Quand il y a un problème sur la route, par exemple, il y a toujours un mec qui va venir...
Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les motos modernes, elles sont compliquées à accéder. Un mec, pas un mec, c'est que de l'électronique. Une fois sur deux, ta moto, elle est en panne, il faut que tu ailles à la concession, ils branchent une petite valise dessus, il y a un code erreur, et après, ils savent où est-ce qu'il faut regarder. Et c'est souvent de l'informatique, de l'élec, que de la mécanique pure.
Et comme sur les voitures, en fait.
Exactement. Actuellement. Donc, du coup, ceux qui aiment la mécanique, je dis ceux parce que c'est quand même plus souvent, quand même, en très grande majorité des mecs dans les garages, souvent, ils vont sur des anciennes. Donc, Il y a un amour, pas que de la mécanique, il y a aussi un amour de la moto, de l'état d'esprit. Ça vient souvent avec tout un mode de vie, parce que du coup, c'est des anciennes, il faut les entretenir, il faut, ça pollue plus. Donc il y a des endroits où tu ne peux plus aller, des critères qui dépassent. D'ailleurs, il y en a certains, ils n'ont plus de critères dessus. Donc ça restreint quand même beaucoup la pratique. Il n'empêche que la base de graisser sa chaîne, de faire la pression des pneus, de savoir si tes roulements fonctionnent, c'est-à-dire si tu peux bouger le guidon, si ton axe de roue est bien en face, moi, c'est des choses que j'ai jamais fait. Moi, quand j'ai besoin de faire la révision de ma moto, je l'amène chez Harley et ils me la font et ils m'envoient la facture et je pleure.
C'est ça.
Et après, voilà. Et oui, je j'allais dire, est-ce que je saurais faire ma vidange? Je sais même pas, parce que... Parce
oui.
qu'en fait...
Oui, je te dis oui.
Alors en fait, maintenant, c'est-à-dire que oui, je sais dans l'absolu, je saurais le faire. Aujourd'hui, est-ce que j'ai la force pour dévisser les trucs, parce que j'ai pas les bons outils, parce que je suis pas dans mon garage équipé? En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que spontanément, je te dirais, je sais pas le faire. Mais juste parce qu'on ne m'a pas montré, du coup, je ne me suis pas équipée, du coup, je ne saurais pas par quoi commencer. Et la clé, elle est là. On a, nous, prévu un atelier. En fait, il y a Ipone qui fait des lubrifiants, qui va venir, qui va faire la révision de toutes les bécanes et qui va venir avec une mécanista qui, elle, va expliquer ce qu'elle fait, voire qui va laisser faire la motarde ou lui répondre à ses questions. Ça sera, on est sur du basique et de vraiment... même presque de l'initiation, mais au moins 150 participantes pourront mettre leur moto sur le banc et voir ce qui se passe et poser les questions. Peut-être qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de faire ça, parce que quand tu vas dans une concession, dans un garage, en fait, la problématique, c'est que... c'est même pas que tous les mecs sont misogynes en face, c'est qu'on a tellement intégré ça que pour ne pas avoir le risque de te faire envoyer bouler, tu ne vas pas poser la question. Parce que tu as entendu des histoires ou qu'ailleurs tu t'es fait recevoir mal, bah tu dis, oh, allez, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de me faire regarder de haut, ras-le-bol de m'entendre ma petite dame, machin, je vais le laisser, je vais payer, et puis je vais pas demander parce qu'il a pas le temps, parce qu'il va me dire n'importe quoi. Et ça éloigne, je me reconnais totalement dans ce que tu dis, ça éloigne le savoir, en fait. C'est ça qui est terrible. Et qu'après, quand t'entends des mecs qui nous disent... je comprends pas, c'est pas difficile, t'as qu'à demander. Ok, alors je vais t'expliquer ce que c'est de ce côté de la barrière, le t'as qu'à demander. Mais on a toutes des anecdotes, mais complètement hallucinantes. Tu rentres dans un magasin moto, mais c'est ouf qu'en 2020, 2022, on soit encore reçu de cette façon. Entre, voilà le rayon scooter... Entre vous êtes passagère, donc voilà le casque pour les passagères. Entre cette moto elle est trop puissante pour vous, c'est pas la peine de vous renseigner dessus. Mais en fait, qui tu es, n'importe quel commerçant de base, il va d'abord dire bonjour, quel est votre besoin? Mais non, t'es une meuf dans un magasin de moto, on va commencer par plaquer l'image qu'on a de toi, et puis c'est fini. Et donc, étrangement, après ils nous disent, il y a personne dans nos bouclards. Bah écoute les gars, si faudrait vous étiez un petit effort. Peu plus woman friendly, je pense qu'il y aurait plus de meufs, quoi. Mais c'est difficile d'accéder à ce savoir.
Ouais. Et on a la même chose dans le milieu du vélo, hein, dans le cyclotourisme, peut-être un peu moins, mais dans le vélo de route, par exemple, ou la course, ou ce genre de choses, c'est ce genre de truc que tu retrouves aussi, non? Donc, c'est forcément les vélos hyper pointus, c'est pour les mecs, enfin, de toute façon, même clairement, ils sont designés pour les mecs, hein, les selles, les trucs et tout ça, donc. C'est une lutte quand t'as une meuf qui arrive dans un magasin de vélo qui veut acheter un vélo de course qui va mettre un certain budget dedans parce qu'elle fait de la course, qu'elle est professionnelle. Bah on va falloir lutter pour réussir à, tu vois, à avoir ce qu'elle veut, en fait. C'est la même chose, c'est un peu le même truc. C'est la même chose aussi en mécanique, c'est la même chose dans les ateliers vélo où clairement on va pas considérer ce que tu dis, on va considérer que de toute façon t'y connais rien et que ça t'intéresse pas. Mais c'est assez étonnant ce que tu dis sur le fait de t'as qu'à demander. C'est assez étonnant de dire que les mecs, en fait, entre eux aussi, se demandent pas les choses. C'est qu'en fait, ils préfèrent rester dans un non-savoir et essayer des trucs qui, on va dire, à 50%, je suis sympa, 50% est foireux, quand même. Donc, ils ont une chance sur deux que ce soit un peu foireux. Mais ils préfèrent ça plutôt que de demander un père. Ce qui est complètement aberrant, alors que nous, on nous demande de demander. Bah non, en fait. C'est pareil, demande, commence à demander, toi. Et puis après, on pourra peut-être s'échanger du savoir. Et puis après, juste... mais ça, c'est des questions aussi de posture, de société.
Mais les quelques concessions que j'ai rencontrées qui organisent des soirées dédiées aux motardes, qui ont décidé, parce que du coup, open-minded ce soir-là, le chef d'atelier, il va se rendre disponible et tout ça, il nous dit, c'est fou, les femmes posent des questions. Et elles ont honte d'aucune question. Et il dit, c'est génial, parce que du coup, ben, à ce moment-là, je peux transmettre mon savoir. Mais quand je fais ça avec des mecs, je peux rien dire. Ils savent ou je sais. Point. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. Et en plus, c'était un mec qui faisait ça depuis 40 ans, qui était ravi qu'on lui demande, en fait. Donc, c'est ça qui est incroyable. Mais je ne suis pas sûre que dans un quotidien de lui, gestion de son atelier, avec la liste de ses motos à gérer dans la journée, il soit disponible à ce moment-là. C'est ça, le problème. C'est qu'il faut qu'il soit conditionné pour ça.
Et du coup, Alex, ce lieu d'échange de savoir, où est-ce qu'on va pouvoir venir avec toi apprendre à réparer nos vélos?
Alors, avec nous, parce qu'on est nombreuses, en fait. Hein, on est une équipe de mécaniciennes. Donc
vous êtes formées à la mécanique
vélo? On est formées à la mécanique de différents degrés. On a certaines qui ont le CQP, donc qui est le diplôme reconnu par l'État de qualification professionnelle de mécanique. On a différents degrés de formation. Moi, j'ai fait pas mal de formations avec un organisme qui s'appelle le Recyclage, qui est situé sur Grenoble et qui propose des formations méca à prix libre ou prises en charge par le Pôle emploi, qui sont super, dont des formations mixtes et choisies. Donc ça, c'est encore génial, plus génial. Et donc on est 5, 6, 7, 8, 10 personnes à peu près à tourner autour de notre asso qui s'appelle Écrouvis. Et on aura notre lieu normalement en septembre au Chute-la-Vie, donc qui est un quartier de Marseille, qui est dans le 4e, 5e arrondissement. On est un peu soutenu par la mairie, donc c'est un lieu qui est normalement mis à disposition par la mairie du 4e, 5e. On a une élue qui nous suit et qui aime beaucoup notre projet, donc on est ravis. Et on espère pouvoir accueillir et faire de la formation et des initiations à la mécanique très très vite. Et aussi, on va partager ce lieu avec une autre association qui s'appelle Cyclotopia. Et c'est aussi deux autres personnes qui sont aussi engagées dans le féminisme, qui, elles, vont faire de la remise en selle et qui vont proposer des cours de vélo pour les minots, mais pas que, aussi pour toute personne qui aurait besoin d'être rassurée.
Les minots, pour les personnes qui n'habitent pas Marseille, qu'est-ce que c'est les minots?
Les minots, c'est les enfants. Voilà. c'est les enfants.
Parce qu'on a des parisiennes qui nous écoutent, hein, désolé,
c'est vrai.
Traduire.
C'est vrai. Et voilà, donc elles vont faire ça aussi en septembre, en lien aussi avec la mairie du 4-5, et puis après ailleurs, en Marseille. Et n'importe qui peut venir pour demander des cours ou d'être juste accompagné, par exemple, sur des sorties et de faire, par exemple, un trajet, son trajet maison-travail, et de réfléchir à comment on peut trouver un itinéraire pour faire quelque chose de chouette, qui soit agréable et pas trop dangereux. Parce que ça, c'est aussi une problématique de comment on fait du vélo ici, en ville, et aussi à Marseille, mais comment on fait du vélo en ville, c'est de trouver des itinéraires qui sont sympathiques et qui te mettent en sécurité. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais voilà, elle travaille
c'est
à
vrai.
Ça, elle réfléchit à ça, et on les soutient à
très
fond, on va faire ça ensemble, ça va être super.
Mais c'est probablement le premier frein des gens qui font pas de vélo pour se mettre en vélo.
Oui, ah, tout à fait.
Comment on circule en ville, comment on reste en vie,
oui.
Et comment on partage avec quelqu'un qui partage pas, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, je pense que ça, c'est vraiment des choses qui s'apprennent assez facilement. Et ce qui, moi, me chagrine un peu plus, c'est vraiment la place des femmes dans la pratique du vélo, où clairement, même dès le plus jeune âge, en fait, hein, dès l'enfance, on va dire qu'on t'en exclut progressivement, comme beaucoup de sports. Et que du coup, ça, c'est une marche qui est très, très difficile à rattraper à l'âge adulte, surtout quand, par exemple, de famille, enfant, ou que toi-même, tu as des enfants, et que du coup, tes enfants font du vélo, mais tu peux pas les accompagner. Donc ça, c'est à faire du vélo parce que tu ne sais plus faire du vélo, ou que tu en as fait il y a longtemps, mais que tu as peur. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles, moi, qui me touchent beaucoup, et j'ai vraiment très, très envie qu'on travaille aussi à ça. Et la mécanique vélo, pour revenir à ta question tout à l'heure, la mécanique vélo, elle fait complètement corps avec tout, en fait. C'est-à-dire que si tu ne sais pas regonfler tes pneus, si tu ne sais pas régler tes freins et régler un petit peu ton dérailleur, il ne s'agit pas de choses très compliquées. Mais si ça, ces petites bases-là, tu ne les as pas, très vite, tu vas laisser tomber ton vélo, reprendre les transports en commun. Et puis, voilà. Puis peut-être, si tu as un peu de sous un jour, tu l'emmèneras chez un réparateur. Et puis, en fait, ça coûte cher. Et puis, en fait, tu l'oublies. Et puis, voilà. Juste regonfler ses pneus, des fois, ça peut être une galère.
Ah
ça
oui,
semble
non,
accessible.
Je confirme, j'ai mis beaucoup de temps à maîtriser la pompe à vélo. Hein.
C'est
pas une blague. Hein.
Et ça semble tout bête, mais en fait, il n'y a personne qui te l'explique. C'est pas intuitif quand même. Tu te sens que tu vois bien qu'il se passe des trucs, mais ouais. C'est quand même. Enfin, juste d'être accompagné dans ces petites choses-là, qui ne sont pas des choses très compliquées et qui sont accessibles, ça te permet d'avoir une pratique du vélo après un peu douce et un peu vertueuse. Quoi. C'est-à-dire que. Tu vas pas te prendre la tête tous les jours avec ton vélo, ça va pas être galère, ça va être juste simple.
Ouais, mais non, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que moi, quand j'étais enfant, ado, c'est mon père, en fait, qui faisait toute la révision de mon vélo. Lui, il a fait beaucoup de vélo en tant qu'amateur, donc il a une bonne connaissance de la mécanique vélo, donc c'était très pratique. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée étudiante à Grenoble, avec en plus, je m'étais fait voler mon super beau vélo, donc avec un vieux bicou tout pourri, c'est clair que je j'étais comme une poule devant un couteau, quoi. Comment on regonfle les pneus? J'essayais, j'y arrivais pas, c'était dégonflé. Donc j'ai fini effectivement par aller à l'assaut de Grenoble de mécanique vélo, qui n'était pas en mixité choisie à l'époque, mais en tout cas, c'est vrai que d'apprendre à le faire, il y a un moment où il faut que le savoir se transmette effectivement, quoi. Et moi, ça m'a libéré aussi un truc dans le fait de, allez, ouais, je peux regonfler mon pneu de vélo, que j'y arrivais pas, je peux changer un frein, c'est possible. Alors je le fais pas toujours, hein. J'ai beaucoup tendance à l'emmener chez les mécaniciens professionnels, mais de savoir que je peux si besoin, c'est quand même une liberté.
Et c'est vrai qu'il y a vraiment, tu soulèves aussi le côté économique et financier par rapport à la méca, et c'est vrai que c'est d'autant plus, c'est aussi vrai, tu vois, même dans la moto, où en fait tu disais, tu vas au garage et en fait tu vois la facture et tu pleures. Moi j'ai le luxe de jamais avoir été vraiment dans un garage de ma vie, parce que mon père est mécano, donc...
Dis donc, on a des super darons, nous. Ouais, ils font tout.
Oui, c'est ça, et pour le coup, il est mécanicien auto, là tu vas chez lui, il a 8 bagnoles dans le jardin, aucune qui roule en ce moment, donc c'est un très mauvais exemple, mais et puis 6 motos qui se courent après. Mais du coup, c'est vrai que mon réflexe, enfin, je me souviens de cette fois où j'avais mon. En plus, ça t'arrive tout le temps, des galères à la. Enfin, vraiment des galères à la con en moto, ça t'arrive, mais tout le temps. Moi, je roule sur des vieilles pour le coup, donc il n'y a rien d'électronique. Et en fait, il y a vraiment des bases à avoir, même faire ton niveau d'huile pour pas casser ton moteur. Enfin, et en fait, si t'apprends pas à vérifier le niveau d'huile, autant un jour t'as juste plus de moto, quoi, parce que t'as oublié de vérifier et en fait ton moteur il a claqué. Et il y avait une autre fois où j'étais vers La Rochelle en moto, et en fait c'était mon robinet d'essence qui fuyait, et en fait je me demandais si c'était grave, et en fait le truc c'était une membrane là, et en fait si jamais elle claquait, j'avais plus du tout d'essence qui arrivait dans les carburants, donc autant te dire que je rentrais
À pied
de La Rochelle. Ouais. Et en fait, je vais voir un Honda, et en fait, ils me sortent un devis à 500 euros. Je fais genre, c'est un robinet. Enfin, la moto, elle m'a coûté 1000. Enfin, je vais pas payer la moitié du prix de la moto pour un robinet d'essence. Je trouve une pièce à 50 balles d'occasion. Et en fait, j'appelle juste mon père avant. C'est facile ou pas à démonter un robinet d'essence? Il me dit, oui, il faut juste avoir la bonne clé. Donc en fait, j'ai juste demandé au garage Honda quelle clé ils avaient. Il m'a dit une clé de 30. J'ai dit ok, j'ai acheté une clé de 30. J'ai trouvé un robinet d'occasion, ça m'a coûté 60 euros au lieu de 600, quoi. Et en fait, c'est ce genre de truc où du coup, tu te dis, en fait, ça te permet de continuer à rouler. Enfin, tu vois, même si t'as un petit budget, en fait, juste savoir et pour le coup, c'était vraiment dévisser, revisser, quoi.
Oui. Et puis, comme disait Alex, t'as la satisfaction de l'avoir fait toi-même. Ça, ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez important. On fait plus rien. Moi, je fais plus grand chose avec mes mains. J'utilise beaucoup mon cerveau et mon clavier, mais pas grand chose avec mes mains, quoi. Et je pense que ça change aussi ta pratique, la confiance que tu as dans ta machine. Quand tu la connais, tu sais jusqu'où tu peux aller, j'imagine.
Ouais. Puis même, ça te permet aussi d'envisager d'autres voyages. Enfin, tu vois, des voyages où du coup, tu vas être dans des endroits un peu reclus, tu vois, avec pas forcément des garages autour. En fait, tu te dis, si j'ai les bases, vraiment, si c'est complexe, tant pis. On fera autrement et je demanderai de l'aide en bord de route, tu vois. Mais en fait, si tu te dis que t'as quand même le kit de survie, entre guillemets, tu peux même penser plus loin, même dans tes projets. Avec, avec ta moto, avec ton vélo, du coup, c'est pareil, quoi.
Avant de passer au match, on avait préparé toute une liste de questions, mais en fait, vous dites tellement de choses passionnantes que on ne peut pas en placer une. Mais Malik, tu avais peut-être une ou deux questions que tu voulais poser.
Déjà, c'était c'était comment, par exemple, Alice, comment t'en es arrivée à rouler? Enfin, tu vois, même toi, c'est quoi ton histoire à la moto? Parce que je sais que tu roules depuis 15 ans, mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent? Est-ce que... C'est quoi ton histoire avec ton deux roues?
Moi, mes deux parents roulent, tous les deux en Harley. Donc, en fait, quand tu commences Harley, c'est difficile de passer à autre chose. Déjà parce qu'en fait, tu passes direct à la grosse moto. Donc, en fait, tu as démystifié toutes les étapes d'autres motos. Donc, tu te dis pas, ah non, je vais rester sur ma petite mobilette parce que j'ose pas. En fait, tu es passé direct dans le grand bain. Il y a tout un univers qui vient avec Harley, le bruit de la moto, qui est doux à mon oreille, mais je pourrais comprendre que ce soit gênant pour d'autres non-initiés. Il y a un état d'esprit. Vraiment, quand tu roules et que tu croises des gens en Harley, Il y a un lien qui se crée. T'as vraiment pas le salut que tu fais, il est pas le même, quoi. Il y en a qui jettent leurs bras parce que ils te voient en Harley, ils sont trop contents, et il y en a d'autres, Il y a vraiment un lien qui est important. Et comme j'ai baigné là-dedans, parce que mes deux parents ont le permis et ont leur moto, arrivé à 25 ans, c'était un peu naturel pour moi. Je vais passer le permis, quoi. Ça y est, je vais prendre mon indépendance. Et puis, j'ai jamais bougé parce que finalement, aussi, cette moto, elle m'a amenée à vivre plein de choses. Et plein de choses avec Harley aussi. Il y a des événements Harley, il y a une équipe avec qui j'ai travaillé au Marketing France qui m'a permis de vivre plein d'autres choses. Et en fait, il y a quand même un esprit un peu familial. On se comprend. Et on, même si les motards est une grande famille, et je mets des petits guillemets quand même, Harley, c'est un peu particulier, quoi. Et je pense que cet esprit communautaire, même si moi, j'ai beaucoup roulé toute seule, c'est un peu ça aussi que je veux proposer. Parce que chez Harley, il y a un peu des règles. Les gens roulent en groupe, ils ont des règles pour rouler en groupe. On s'attend toujours, on roule en quinconce. Enfin, voilà, il y a plein de petits signes qui font que ben, moi, quand j'organise des trucs en groupe, je sais comment on fait pour rouler en groupe. Je sais comment on drive les gens, c'est quoi le briefing, où est-ce qu'on s'arrête, quelles sont les petites choses à penser quand il faut s'arrêter pour le parking, des choses comme ça. Et je me rends compte aussi ben, que c'est un savoir qu'on m'a transmis. Alors, de façon un peu indirecte, hein, parce que mes parents ne m'ont pas assis en me disant « voilà comment ça se passe ». Mais je l'ai vu depuis que je suis toute petite. Donc, c'est facile pour moi de le reproduire. Et je pense aussi que emmener des femmes avec moi en moto et de leur transmettre plus ou moins directement ces guides pour rouler en groupe, ça démystifie aussi beaucoup certaines, soit d'emmener un groupe, soit de rentrer dans un groupe. Il y en a qui nous ont fait faux bond plusieurs fois. Il y a des femmes qui ont dit « je veux venir » et puis au dernier moment qui disent « je me sens pas ». Je ne me sens pas de rouler dans un groupe, je vais être la dernière, je ne sais pas rouler, j'ai peur que vous m'attendiez, je n'ose pas. Et c'est dommage parce que du coup, bah en fait, en ne venant pas, elles n'acquièrent pas non plus ce petit savoir qui va leur donner confiance à rouler ensemble. Donc on les motive beaucoup, là, notamment pour Femmes et Moto, parce qu'il y en a qui viennent de plus loin que juste les Alpes. Et on leur donne des petits tips, quoi. Mettez-vous en relation, on va parler à un tel, retrouvez-vous à des endroits, faites des étapes. Vous venez en 125 ou en gros cylindré, tout est possible. Adaptez votre roulage à vous, à votre moto. Mais pareil, il y a une espèce de pression un peu viriliste qui est là, qu'il faut toujours se dépasser. Et certaines, elles n'arrivent pas à jauger. Est-ce que je me dépasse parce que j'en ai envie ou est-ce que je me dépasse parce qu'il faudrait que j'y arrive et en fait, je ne suis pas à l'aise, donc j'annule tout. Et c'est celle-ci qu'on veut remotiver.
C'est vrai que ça, j'avais trouvé ça super surprenant même de rouler bah du coup pendant le week-end des pétrolettes avec vous parce que bah comme je te disais moi je roule très peu en groupe et bah pour le coup j'avais roulé jusque là mais que avec bah des groupes d'hommes mais en fait c'est aussi parce que je connaissais très peu de copines motardes enfin et en fait j'avais vraiment ressenti mais parfois de manière super forte ce truc de accélère et en fait même moi je me sentais mais aller au-delà de enfin beaucoup trop par rapport à ma zone de confort et en fait à la fois ça me mettait la pression mais ça m'énervait enfin en plus quand je m'énerve je suis une coquille je suis genre je boue tu vois mais
ouais t'es pas dans des bonnes conditions
non et en fait tu prends pas plaisir non plus et en fait et du coup enfin c'est vrai que bon bah je vous avais suivi avec grand plaisir sur les pétrolettes et pour le coup il y avait pas cette pression là mais en fait même cette pression là d'une part je l'avais ressenti, enfin tu vois sur certains itinéraires que j'avais fait avec des personnes qui me mettaient la pression machin, mais en fait derrière même, en fait je sais que c'était un truc que j'avais gardé même intégré sur ce truc de oh, bah, j'ai une poitrine, est-ce que je suis légitime sur ma moto tu vois.
La question elle a l'air tellement con dit comme ça.
Elle est complètement con quand elle est phrasée à voix haute et elle est tellement puissante quand elle reste dans ta tête. Et du coup, il y avait un moment où il y a deux ans, j'étais partie juste un voyage seule ou alors juste avec une copine à qui j'avais proposé. Et alors que j'ai vraiment des copains qui sont mais des chatons et jamais ils te mettent la pression sur rien. Mais je sais que dans ma tête, il fallait que je fasse un voyage seule ou alors juste avec une copine juste pour me dire c'est OK, t'as ta place. Et en fait, depuis, j'ai beaucoup moins cette question de légitimité, mais je sais que c'était un vrai travail, quoi.
Pour moi, c'est à ça que ça sert de participer une fois de temps en temps à des événements entre femmes, entre motardes. C'est vraiment ce que j'ai vécu, moi, au pétrolette ou au bootcamp en Italie. C'est tu te rends compte à quel point, toi, tu as intégré un certain sexisme, une certaine limite, une certaine attente que t'as à force de traîner dans un groupe qui est à majorité masculine. Et donc, quand il n'y a plus de mecs, tu peux plus te mentir à toi-même. Tu peux plus te dire « Ah, lui, je suis sûre, il pense ça. Lui, je suis sûre, il voudrait que je roule plus vite. Lui, je suis sûre, il pense que je roule mal. » Il n'y a personne pour te juger aussi, on va dire, systémique. Donc, en fait, tu es à toi avec toi-même et tu es capable de te rendre compte qu'il y a quand même certaines limites que tu as tellement intégrées que tu n'arrives pas à les dépasser. Et du coup, quand tu reviens en mixité, t'es plus à même de dire que l'autre l'exprime ou pas. Toi, en fait, je m'en fous de ton avis. Que tu l'exprimes ou que tu le penses ou que je pense que tu le penses. Et ça, moi, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte de ces blocages que j'avais un peu intégrés. Et puis aussi de dire, en fait, j'ai vu des meufs qui roulaient mais tellement mieux que vous, qui se respectaient tellement mieux que vous, que je sais pas pourquoi je m'inflige, en fait, de rouler avec vous. J'ai pas besoin de ça. Je sais que j'ai des copines, ou même toutes seules, et je peux me faire beaucoup plus plaisir que de vouloir fitter à tout prix dans ce crew qu'on m'a proposé, parce que ben, quand tu vois souvent, je sais pas si vous faites peut-être moins attention, mais quand je regarde beaucoup, quand tu regardes des groupes, je ne croise jamais de groupe de meufs en moto, je croise des meufs toutes seules ou une meuf au milieu d'un groupe de mecs.
C'est exactement pareil à vélo, hein. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu as pu constater aussi, Alex. Et toi, tu voyages aussi à vélo, enfin, comment t'as franchi le pas un peu de...
Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé là très, très récemment.
C'est-à-dire
Bah là, il y a 2 semaines.
Écoute, ah oui, c'est pas récent. Voilà.
Il y a 2 semaines, on est parti faire la Pyrénées Exus. On a fait 500 km en vélo et voilà, on était deux.
Dans les Pyrénées.
Et c'était super, c'était vraiment super. Mais on n'a pas croisé beaucoup de cyclistes féminines, enfin en tout cas de femmes, sur ce voyage. On n'a pas beaucoup d'ailleurs croisé de cyclistes tout court. Mais ça, c'est une autre histoire. Et par contre, dans l'école, parce qu'il y a quand même les Pyrénées, là, c'était que des mecs. Que des mecs en mode on monte d'école, on descend d'école, on monte d'école, on descend d'école, avec les petites tenues qui vont bien, les vélos à 2000 balles, les trucs comme ça, quoi. Donc, c'est un autre délire. Ils étaient, je pense, très admiratifs de nous voir toutes les deux avec nos 20 kilos de bagages à monter l'école. Et ils étaient, bon courage et tout, dans toutes les langues. C'était assez agréable. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, non, dans ce voyage. En tout cas, c'était une pratique sportive quand même très, très masculine à cet endroit-là.
Bien, et ben après cette discussion amicale, il est temps de passer à la bagarre. C'est l'heure du match vélo contre moto. Alors Alex, Alice... Préparez-vous, préparez vos arguments. On va vous poser 5 questions. Vous aurez à chaque fois, chacune votre tour, 30 secondes pour argumenter, et pas une seconde de plus. Et après chaque duel, on va demander au public de voter pour le meilleur argument. Et le deux roues qui remportera la majorité des votes obtiendra un point à chaque duel, n'est-ce pas, Malix ?
C'est bien ça. Et bah du coup on va partir clairement on va pas du tout partir sur le débat écologique parce que
on a perdu d'avance.
On a perdu, on se fait terrasser.
Un point d'office pour le vélo.
On pourrait même en prendre 2.
Oui. Et 3 pour le prix aujourd'hui.
En plus, ouais.
Oui, clairement. Alors le premier point, du coup vous avez 30 secondes chacune pour nous dire c'est quoi le plus kiffant, moto ou vélo.
Ah ben, moi, je suis...
Allez, c'est parti, on part, je lance le chrono pour Alice, c'est parti.
Je suis team flemme, donc voilà, le plus chiant sur la moto, c'est de la sortir du garage, piou, 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 comme ça, de sangler les bagages, et après, voilà, moi, les 500 km, c'est 2 jours des Pyrénées, tu vois, j'ai fait 3 cols, j'ai vu plein de choses. Il y a un côté un peu boulimique aussi, je pense, ce truc qui défile, ça vide la tête de façon incroyable, mais il faut avancer, il faut quand même un peu aller vite, il faut voir les choses qui défilent. Il n'y a vraiment pas du tout la notion physique, je l'ai un peu parce que ma moto est un peu plus compliquée.
Ah, c'est fini, 30 secondes, ça passe très, très vite,
c'est... le temps c'est radical, écoulé. On sera aux Oscars, on ne peut pas en placer une de plus, ok. Très bien, je suis pour la prochaine.
Alors, Alex, à ton tour, défends le vélo comme moyen de transport le plus kiffant. Alors, attends, je mets le chrono.
Tu me dis.
Je suis pas tout à fait au point. Oups là, pardon. Mince. Excusez-moi.
Je ne profite pas de la situation, t'as vu, hein, je pourrais quand même lancer des trucs. Allez, et te dire des trucs, mais non.
Alex, c'est parti.
Alors, c'est exactement la même chose, en fait, c'est juste que quand tu pédales et que tu vas d'un endroit à un autre, et par exemple là, c'était le cas dans les Pyrénées, de monter un col, c'est long, c'est dur, ça peut être un peu compliqué des fois, mais après, il y a la descente. Et la descente, c'est le pied intégral. Parce que tu te tapes 12 km ou 15 km de descente à 40 km/h ou 30 km/h, enfin peu importe la vitesse. Et là, tout le plaisir que tout le plaisir que t'as à descendre. Et... C'est fini.
C'est court,
30 secondes. Hein.
C'est court, c'est raide. Hein.
Alors, cher public, vous allez voter à main levée. Qui vote moto?
On a trois mains levées.
Et qui vote vélo? C'est une victoire pour la moto.
C'est une victoire des flemmards, peut-être, non?
Victoire, voilà, victoire, on peut dire, c'est vrai, victoire, victoire des flemmards. Après, moi, je te rejoins tout à fait ce que tu dis, Alex. Enfin, c'est vrai que cette sensation de la descente, c'est tellement... c'est
la
génial,
liberté,
quoi.
C'est la liberté. C'est, tout d'un coup, t'as un effort, t'as fourni un effort et t'es récompensé directement de cet effort avec... plus d'efforts du tout et tu te laisses aller comme ça dans le vide. C'est magnifique, j'adore. J'adore.
Alors, on a une cycliste qui n'aime pas. Je crois qu'elle a été un peu de mauvaise foi parce qu'elle a voté vélo malgré l'argument qu'elle ne valide pas du tout. Mais c'est qui dit qu'elle déteste la descente parce que ça fait peur. C'est vrai que ça peut être,
oui, ça peut être un peu effrayant.
Ça peut être un peu... Un
mais c'est surtout que tu ne pédales plus. C'est ça qui est génial. C'est ça, en fait.
Et pour être tout à fait fair play, je crois qu'on a une histoire récente de cassage de gueule dans une descente, donc ça n'a pas dû aider ton argument.
Ok, merde. Ok, ok. Donc, c'est parce
vélo,
que je l'ai vécu il
n'y
a pas très longtemps, mais... Ouais. Voilà, j'aurais pas dû choisir cet argument. Merde. Désolée, le vélo.
Ah non, mais tu m'as quand même donné envie de faire du vélo. Donc,
Bon. Ça va.
Allez,
ça va.
On passe à la question suivante, Malix.
Ok, donc là, on a parlé des ressentis intérieurs. On va parler de la perception extérieure. C'est quoi le plus stylé entre la moto et le vélo?
Allez, Alex, cette fois, on passe par Alex. C'est parti.
Alors ça, c'est hyper dur parce que si on parle des tenues de cyclistes, quand même, c'est pas nous, hein. Ça, c'est clair. Mais en fait, on peut aussi déconstruire complètement ça et imaginer qu'on a une jolie tenue, une jolie robe, je sais pas, peu importe, n'importe quoi, mais que c'est super beau et que c'est quand même la classe et qu'on peut avoir des super vélos hyper bien pimpés de ouf et aussi des beaux mollets et des muscles saillants et le sourire aux lèvres de toute cette liberté, enfin, d'être en pleine forme, de respirer le bon air et de faire du sport, c'est magnifique.
Et voilà, bah c'était parfait. Alors, est-ce que la motarde saura répondre à cet argument de la classe du mollet galbé? C'est parti, Alice, tu as 30 secondes.
Bah nous, on a plus d'espace. Les motos, il y a plus d'espace pour faire des belles peintures, pour mettre des beaux accessoires. On est plus équipés, donc on a plus la possibilité, tu vois, de travailler les boots, le jean, la veste, le casque. Donc... Comme on a plus d'équipement, bah du coup, on a un petit avantage peut-être pour travailler le style. Après, il y a style et style. Il y a le style BMiste allemand, les pieds à la tête, voilà. Il y a le style sportif cuir, même par 45 degrés. Et puis, il y a le style hipster où on roule sans protection, on s'en fout.
Et voilà, c'est terminé. Ok. Alors, qu'en pense le public? Moto? Vélo. Ah, il y a quand même. Ah, il y a deux vélos. Merci, Raph. Et c'est encore la moto. C'était serré, ouais, mais c'est encore la moto qui gagne.
Purée, je vais peut-être finalement me racheter une moto.
Ah là 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 là. Fuck the planet.
Non non non, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible.
Allez, on passe à la question suivante.
Ouais, et ben, on en a un petit peu parlé, mais du coup, ce qui est cool, c'est aussi pour les personnes qui ne savent pas trop même ce que c'est que la sensation vraiment du voyage à moto et du voyage à vélo. 30 secondes pour défendre voyage à moto, voyage à vélo. Bah, Alice, à toi.
Bah, je pense que c'est la même chose, c'est juste qu'on va plus loin, plus vite. Vraiment, quand je t'entends, c'est exactement ça que je vis. C'est être à un endroit le matin et être à un autre endroit le soir. C'est voir ce paysage défiler. C'est être dans un col et être au milieu des vaches. C'est devoir s'arrêter, mettre la combi de pluie pour la descente ou la montée parce que tout d'un coup, de l'autre côté du col, c'est pas le même temps. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je suis partie 10 jours, j'ai fait les Pyrénées aller-retour. J'ai vu tout ça en si peu de temps et c'est moi qui ai décidé où je suis allée.
Et c'est déjà terminé.
Message. Hein.
Alex, ouais. Contre-argument?
Et ouais, Ouais. Et bien alors du coup, c'est justement la question inverse. C'est-à-dire que c'est pas la question. Pour moi, le voyage à vélo, c'est vraiment la question du temps, d'un temps lent et d'un temps de presque un peu méditatif, c'est-à-dire où en fait tu vas visiter des choses, voir des choses, voyager dans une notion de je pars pas d'un endroit pour aller à un autre endroit absolument, mais je pars d'un endroit et j'avance. Et du coup, c'est tout. Et donc ça te laisse complètement aller à une autre forme de voyage qui n'est plus du tout le même. Et c'est ça qui est génial. C'est pas la même chose.
J'adore ton argument. La lenteur, l'éloge de la lenteur.
C'est poétique.
Alors, dans le public, plutôt vélo. Ouais. Oh. Moto. Et c'est le vélo qui gagne. On est à une parfaite égalité, là. Oui. Si on compte l'argument écolo, on est à deux.
Ah oui, c'est
à
vrai deux. Si on compte l'écologie, c'est vrai.
C'est bien.
Et là, on va avoir une question un peu plus glissante, qui est, qu'est-ce qui est le plus pratique sous la pluie? Le vélo ou la moto? Alex, je t'en prie.
Eh bien, alors, c'est compliqué, parce que moi, j'ai des lunettes, par exemple. Donc, le vélo avec des lunettes sous la pluie, c'est galère. Hein, voilà, ça c'est quand même un petit peu chiant, on peut le dire. Après, tu vas pas très très vite, donc du coup, t'es forcément mouillé. Mais tu peux mettre une cape de pluie, t'as plein de moyens. Puis surtout, tu peux t'arrêter où tu veux parce que tu t'en fous, t'es en voyage à vélo, donc t'as du temps. Donc tu t'arrêtes où tu veux, tu te mets à l'abri, tu vas prendre un petit café, tu rencontres des gens, c'est cool. Et voilà, donc pour moi, c'est ça. Et même en ville, hein, finalement, il pleut, bah, c'est comme à pied, c'est... T'es mouillée, enfin, tout va bien, mais t'as pas de risque.
C'est terminé. Alice, c'est parti.
Bah, ça va aller très vite, je donne mon point en vélo, moi. Ah non, mais y a pas moyen, surtout avec ma vegan, il y en a probablement d'autres qui sont pas faites sur la pluie, mais une Harley sous la pluie, il y a aucun harléiste qui trouvera que c'est agréable. Tu prends un rond-point, t'oses même pas pencher parce que tu sais que tu vas le faire sur le côté. Donc non, la pluie, c'est un calvaire. L'anti-buée sur les visières, ça n'existe que dans les rêves des producteurs de casques. Donc non, moi, je le fais en vélo volontiers.
Ok, donc le match est gagné d'avance pour le vélo, là, le point en tout cas. Qu'en pense le public?
Le public est de bonne foi, mais oui.
Alors, pour le vélo... Ah ouais, voilà, c'est l'unanimité totale.
Et à la fois, c'était clairement une question très ironique parce que c'est la Hesse.
Ah ouais. Je pense que n'importe quel motard te dira que le pire moment, c'est quand il faut s'arrêter parce que tu sais qu'il va pleuvoir, que t'es en plein été, qu'il fait chaud, que t'as déjà tout ton équipement et que tu dois mettre la combi de pluie par-dessus. C'est un peu comme un truc de sudation, tu vois, qui pleut, que t'es quand même mouillé parce qu'au bout d'un moment, comme tu roules à 100, ça passe à travers et que t'as chaud et t'es mouillé en même temps et t'as peur que ta moto tombe et que vraiment, il n'y a rien là-dedans qui...
C'est un truc un peu maso, en fait. Ouais. Hein. Maso, je crois, pour faire de la moto, je crois. Il y a un truc un peu comme ça. Non, mais c'est vrai, parce que quand je faisais la moto, je me disais, l'équipement, en fait, c'est chiant. Certains blousons, déjà, c'est cher. Enfin, il y a quand même un truc, mais c'est lourd, c'est cher. Ton casque, tes trucs, si tu veux bien te protéger, si tu veux pas tomber, en fait, tu pèses une demi-tonne. La plupart du temps, tu as envie de rouler quand il fait chaud et beau. Donc, c'est complètement pas du tout adapté.
Et si on continue, on en parlait avec Malik, il fait chaud, tu voudrais aller te baigner, tu voudrais aller à la plage, mais du coup, te remettre ton jean et tes boots sur ta peau qui est pleine de sel et de crème, c'est l'horreur. Donc, tu te baignes pas, donc tu restes dans le chaud. Donc, bon, vraiment, ouais. Pourquoi on fait la moto?
Moi, je le fais quand même, mais bon, je prends le quart d'heure pour enlever, tu sais, le fut de moto, etc. Le quart d'heure pour tout remettre, parce qu'en plus, t'as rajouté le sel, donc tu vas encore plus galérer, mais bon, je le fais quand même.
C'est bien résumé. Moi, pour moi, la moto, c'est le voyage. C'est uniquement, on part loin et on n'a pas d'excuses. Sinon, je rentre chez moi, en fait. C'est pour ça que je tourne pas autour de Marseille. Je vais loin, toujours.
Oui, mais c'est ça.
Là où il fait frais.
Exactement. J'essaie de monter la montagne, dans le nord, tu vois, des endroits où on peut gagner quelques degrés, quoi.
Faut juste pas s'arrêter, en fait.
Alors attention, là on a la dernière question à 1000 euros. Attention. Alors attendez, je retrouve mon créneau, mais préparez-vous hein, parce qu'elle est vraiment pas mal celle-là. Malik, je te laisse.
Eh ben, vous avez le droit de répondre avec toute la mauvaise foi du monde. Quel est, entre le vélo et la moto, l'environnement le plus sexiste?
Allez, Alex, c'est parti.
C'est difficile hein, pour avoir un peu connu les deux. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va dire que quand même le vélo est en bonne position. Ah, c'est dur. Hein. Je crois que je donnerais bien mon... Ah, je sais pas. Je sais pas, je crois que c'est pareil, en fait. C'est des sports et c'est des activités essentiellement masculines dont les femmes ont été complètement exclues pendant très longtemps. Donc, en fait, pour moi, c'est un partout, balle au centre. C'est malheureusement des lieux et des endroits de sexisme avérés, les deux. Voilà, j'arrive pas à départager. J'aimerais pouvoir dire que le vélo est un peu moins ou que la moto est un peu moins, ce serait super, mais en fait, je crois pas.
Ok, alors, Alice, est-ce que tu as un avis sur cette question ? Est-ce que la moto est plus sexiste ?
J'ai une idée, mais c'est basé sur rien parce que je connais pas le monde du vélo. Moi, j'imaginais que c'était un peu plus admis que les femmes fassent du vélo parce que j'ai un peu ce mythe de la bicyclette bleue, tu sais, du vélo avec la forme de femme, la femme qui pérette, c'est très campagnard, très après-guerre. Et j'imaginais du coup qu'on s'attendait au quotidien à avoir plus de femmes sur le vélo sur un commuting pour porter les enfants et tout ça. J'ai l'impression, avec ce que tu dis, qu'en fait, même dans cette pratique-là, les femmes ont été évincées par peur de la route, par protection des enfants, peur du danger et tout ça. Du coup, je pense qu'on est pas très loin de l'égalité. Ouais.
Là-dessus, vous êtes d'accord.
Oui, c'est clair.
Et qu'en pense le public ? Vous pouvez faire, je sais pas, si vous avez pas d'avis, ouais.
Balle au centre.
Balle au centre. Balle au centre, voilà, on fait le petit signe rond avec les doigts pour dire balle au centre.
Bah nous, on a fait 2-3 recherches pour voir.
On va donner le résultat du match quand même, parce que si je compte bien les points, il me semble que c'est une égalité parfaite.
C'est ça qui est beau.
C'est ça qui est beau.
Nous, on est pour l'égalité, on aime tout et tout le monde.
C'est la sororité, la delphité.
Exactement. Ouais.
Nos différences nous rassemblent.
Avec ou sans moteur, c'est très bien.
Ouais, parfait. Mais oui, du coup, sur la question du plus sexiste, bah, derrière, on a été prise par la curiosité.
Et exactement. Du coup, on a trouvé des trucs de ouf.
On a cherché quelques chiffres. Et ouais. Du coup, Maria, je te laisse présenter ceux qui concernent la FFC.
Oui, la Fédération Française de Cyclisme. Alors, nous sommes en 2022 et tenez-vous bien, il y a seulement 10% de femmes licenciées, ce qui est extrêmement peu. Mais quand même, ce qu'il faut noter, il y a quand même une volonté dans le sport de haut niveau d'améliorer la représentativité des femmes, puisque cette année, en 2022, va y avoir la première édition du Tour de France cycliste féminin. Et oui, c'est vraiment une toute première en France.
C'est marrant. Il y avait pas de Tour de France féminin pendant un moment ? Jeannie Longo, elle a jamais fait le Tour de France ?
Non. Non, il y avait des courses, championnat de France, course sur route, mais pas de Tour de France. Enfin, l'épreuve reine quand même du cyclisme.
Et ça aura lieu en plein mois de décembre, j'imagine.
Non, ça aura lieu.
On va leur rendre la tâche difficile.
Ça aura lieu dans la foulée du Tour de France masculin.
C'est bien.
Oui. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui monte, qui avance, hein, mais voilà. Et autre chose aussi qui avance, moi, je sais pas, j'ai trouvé que des trucs positifs, mais pour les JO de 2024, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a décidé d'instaurer la parité dans le nombre d'athlètes hommes et femmes amenés à participer aux compétition des Jeux Olympiques. Donc c'est une petite révolution, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'à Tokyo, par exemple, les épreuves de cyclisme sur route ont réuni 130 coureurs hommes, alors que la course femme n'a réuni que 67 personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 67 femmes contre 130 hommes, donc beaucoup plus d'hommes admis.
Mais on n'est pas encore sur une pratique mixte.
Non, voilà, c'est des courses différentes, comme la plupart des sports. Donc concrètement, ça veut dire que le nombre de femmes sélectionnées va augmenter, mais que mécaniquement, le nombre d'hommes sélectionnés va également diminuer.
Ok, parce qu'il y a un volume.
Voilà, en fait,
global,
il y a un
maximum.
Volume de global qui est fixe.
Très bien, ça.
Et donc l'UCI a décidé, en quelque sorte, de rééquilibrer. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est quand même assez rare pour justement permettre aux femmes d'atteindre cette parité, qu'on réduise un peu le privilège des hommes. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup, sorry, but not sorry, boys, qui ne participeront pas aux JO. Et toi, Malik, t'es allée voir un peu ce qui se passait du côté de la moto. On a beaucoup rigolé, quand même, en faisant les recherches.
En fait, ça nous a fait un bon fou rire.
Nerveux.
Du coup, en fait, pour rappeler les chiffres, donc les permis moto, en tout cas en 2019, les chiffres, c'était à peu près 30% de femmes qui passaient leur permis moto. Et du coup, par contre, en fait, plus on monte à l'échelle nationale, sportive, etc., bah, en fait, plus ce chiffre tombe. Et à tel point que, donc, à la FFM, donc la Fédération Française de Moto, On compte en 2021 6% de femmes licenciées. Oh, et sachant qu'on a trouvé cette information sur un communiqué du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes, et que ces personnes étaient extrêmement fières de publier ce chiffre.
Ouais, ça avance.
Parce qu'en 2013, on était à 5%. Oh. Donc en fait...
Ça augmente.
Oui, et donc en fait, le communiqué se targuait d'un chiffre en constante progression depuis des années, progression de 1% en 8 ans. Et donc,
on est large.
Et donc enfin, vraiment, là, c'était du coup bah, objectif 10% en 2050. Je pense qu'on est à peu près sur cette base-là.
Je crois. Ouais.
Et du coup, donc, pareil, du coup, l'équivalent du Tour de France, du coup, c'est le Grand Prix moto. Et pour le coup, là, dans la théorie, c'est pas mixte.
Donc, si, en fait, c'est mixte, justement.
Ah, pardon, c'est mixte.
Dans la théorie,
dans
c'est
la théorie,
mixte.
C'est mixte. Parce que du coup, je me disais, mais c'est ouf, il y en a quand même zéro. Enfin, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des grands prix féminins ou des choses comme ça? En fait, non, dans le règlement, c'est ouvert, c'est juste qu'il n'y en a pas.
Ouais. Mais du coup, on ne se pose pas la question de pourquoi il n'y en a pas. Bah non, il n'y en a pas, elles ne viennent pas, mais pourtant
oui,
c'est mixte.
Ça.
Voilà, elles sont bienvenues. C'est ouvert aux femmes, la course.
C'est ouvert, mais il n'y a personne qui veut venir. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire de l'accès quand on est petite et la sensibilisation.
C'est qu'elles n'ont pas envie, voilà, ça les intéresse pas.
Après, il y a quand même des Women's Cup. Qui ont été organisées justement pour faire élever les femmes. J'ai des copines qui font de la piste et qui ont décidé d'ouvrir des journées de roulage à d'autres femmes pour montrer que tu peux être une femme et rouler, que tu peux être une femme et dans les paddocks ne pas être la seule femme. C'est des infos aussi bêtes que comment j'équipe mon paddock, quelle tente, comment je fais, est-ce que je peux prendre une douche, est-ce que...
Quoi un paddock?
Ah pardon, un paddock c'est les stands, on va dire, sur le bord de la piste, là où tu te poses pour entre deux courses ou pour t'équiper ou des choses comme ça. Un peu comme les stands quand on voit sur le Grand Prix de F1. Sauf que la moto a moins d'argent sur les circuits, donc du coup il n'y a pas de stand en dur, mais tu viens avec ta tente et ton camion et tu t'équipes, c'est là que tu chauffes tes pneus, etc. Toutes ces choses-là que tu vois faire, mais où tu vois d'habitude dans les Grands Prix, et le Grand Prix de France, ça a été une messe incroyable dans le monde de la moto, mais que des mecs et puis des meufs en short.
Ouais, oui, qui ramènent, qui donnent les prix.
Voilà.
C'est ça, c'est ça. Nous on fait ça. Hein.
Alors elles sont un peu plus habillées qu'avant.
Les médailles.
Mais elles sont toujours là en short. On n'a pas encore vu des mecs qui sont en short et qui donnent les temps, quoi.
Non, ce serait dommage. Ce serait bien hein, de voir ça, un peu de changer un peu, de voir ça, de voir des hommes en short donner des bouquets de fleurs. Non ?
Pourquoi pas hein ?
Ce serait joli, moi. Je trouverais ça très très joli.
Allez, avant de peut-être conclure, éventuellement donner la parole au public si jamais il y a des questions, on avait un peu envie d'ouvrir sur peut-être des points d'amélioration qu'on peut avoir dans les deux domaines. On avait pensé notamment à la question du handicap. On a cherché un petit peu sur le vélo, moto, comment on fait quand c'est compliqué de faire de la moto. Il y a très peu de choses qui existent. Est-ce que c'est des thèmes que vous avez abordés un petit peu, vous, dans vos activités, vos respectives?
Alors, pas encore directement. Après, c'est des choses dont on a déjà parlé justement avec cette association Le Recyclage, qui propose, et comme certaines autres associations, de faire des vélos tandem pour les personnes malvoyantes. Donc de faire des sorties en vélo avec des personnes malvoyantes. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez chouette, je trouve, à pratiquer, à proposer. On a aussi rencontré quelqu'un, une personne malvoyante aussi, qui travaille dans un atelier de mécanique vélo. Donc qui a fait toute la formation, qui était accompagné par une personne voyante pour l'accompagner dans le choix des pièces et des outils, et qui aujourd'hui a passé son diplôme et qui est quelqu'un qui travaille, donc en milieu protégé certes, mais qui travaille quand même donc dans ce milieu de la méca. Donc ça existe. Après, sur d'autres types de handicap, j'avoue que je ne sais pas. Ça existe aussi quand même pour je sais que tu peux avoir des types de vélos où tu peux pédaler avec les bras. Tu peux avoir aussi, pour les personnes qui sont paraplégiques, un système qui s'appelle les joëlettes, donc qui sont tenues, ça fait un peu comme une chaise à porteur, tu sais, mais avec des roues. Il suffit de deux personnes devant et tu peux aller sur des sentiers de rando. Il y a quelques personnes qui ont ça dans le sud, là, dans justement, qui accompagnent des randonneurs et des randonneuses handicapées. paraplégique, hémiplégique. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais ça marche bien et c'est quelque chose que tu peux faire en famille. C'est-à-dire que tu peux être accompagné par quelqu'un qui pratique ça et toi, tu peux porter un peu à l'arrière. C'est pas si lourd que ça et ça permet d'aller à des endroits où tu peux plus aller en fauteuil, en fait. Donc, ça, c'est assez chouette. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais ce serait chouette de le développer aussi, ça.
Et à moto, est-ce que ça existe ?
Je n'en ai aucune idée. On n'en croise pas sur les routes. C'est un truc de valide. Et j'irais même plus loin, c'est un truc de blanc. C'est-à-dire que c'est aussi un truc qu'on peut adresser. C'est quand même incroyable qu'on soit, je ne sais pas les chiffres, mais de façon empirique, on est 99% de blanc sur les routes et sur les motos. En France, en tout cas, c'est assez flagrant. Et c'est assez... Je n'ai pas la réponse à ça. C'est très surprenant. Même chez les femmes, dans la communauté que j'ai créée pour rassembler autour de femmes et motos, dans les profils, c'est blanc, c'est hétéro, c'est cette grande majorité-là qui s'exprime. On a du mal à trouver d'autres personnalités qui s'expriment, qui revendiquent. Alors, dans la communauté femmes, notamment les Allemandes, elles sont très LGBT. Donc, c'est intéressant parce qu'elles ouvrent ça. Elles utilisent le woman avec un X. Elles utilisent la langue anglaise qui est beaucoup plus évoluée pour intégrer les différentes minorités de genre. Mais non, alors, les valides... Enfin, les non-valides, c'est il faudrait... ça existe, hein, je pense que ceux qui veulent et qui s'y connaissent en mécanique, justement, sont capables d'adapter les embrayages, les freins, plutôt aux mains ou aux pieds en fonction des déficiences. Mais la dernière fois, j'avais vu un monsieur qui avait adapté sa moto parce qu'il était en fauteuil roulant. Il était capable, du coup, il avait créé un side pour mettre son fauteuil roulant. Et il était capable, tout seul, de quitter son fauteuil, de monter sur la moto, de s'harnacher, de plier le fauteuil dans le side. Mais on lui posait la question, il a créé ça de toutes pièces tout seul. Il n'y a personne qui y est aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas dire personne, ce n'est pas vrai. Probablement qu'il y en a, mais en tout cas, de connus et de reconnus qui communiquent là-dessus. Je ne connais pas de garages qui sont en mesure d'adapter des motos à des non-valides. Et c'est ce qui fait qu'on est en une sorte d'entre-soi aussi. C'est probablement ce qui fait aussi que la moto elle a du mal à s'ouvrir à autre chose que l'homme blanc hétéro cisgenre. Parce qu'en fait, si on tolère les femmes, c'est la première minorité qu'on voit, quoi. Et les autres n'existent pas dans la moto.
Allez, pour terminer peut-être sur une note un peu plus festive, est-ce que vous avez des projets vélo, moto, cet été, les unes, les autres ?
Écoute, ouais, moi je peux parler d'un petit voyage qu'on va faire en vélo pour rejoindre les rencontres intergalactiques cycloféministes qui auront lieu dans le Loir-et-Cher au Moulin Bleu. Alors malheureusement, ne vous rouillez pas sur les réseaux sociaux, c'est complet. Il y avait 120 places. Et oui, il y avait 120 places parce que c'est un lieu autogéré qui nous reçoit et qui reçoit ces rencontres cyclophèmes. Ça va être super. Plein de choses au programme, des temps de discussion sur la mixité, les non-mixités, sur les ateliers, sur le voyage à vélo, sur les postures, sur plein de tout ce qui nous concerne. Et puis aussi concerts et aussi un petit peu diffusion, projection de films. Et baignade, évidemment, et Vélorussion avec 120 cyclophèmes énervés.
Wow.
Dans le Loir-et-Cher. Ça va être génial.
Génial.
Voilà. Donc c'est du 21 au 24 juillet. Malheureusement complet, mais j'espère qu'on pourra le réitérer. Et notre asso Écrouvis est un petit peu impliqué à l'intérieur de cette organisation grâce à Sarah qui mène ça depuis un an maintenant. Donc voilà.
Ok, donc rendez-vous en 2023. Et toi, Alice, à part préparer ton festival, qui déjà, oui, ça va prendre pas mal de temps, est-ce que tu as des projets moto ?
À part le festival, moi, je fais des guides pour les éditions Michelin, qui ont un guide moto. Donc j'en ai reconnu une dizaine en 2020, et comme ça a bien marché, j'en refais là une autre dizaine. Donc j'ai fait les Pyrénées, et j'ai encore 3-4 itinéraires à reconnaître dans le Sud-Est. Donc c'est bien, parce que je découvre des coins que je ne connais pas. Tu vois, pourtant, ça fait 15 ans que je voyage en France ailleurs, et il y a encore des coins, même juste à côté, là, où si on t'a pas dit là, si t'as pris l'autre route cette fois-là, les gorges du Tarn, voilà, il y a deux routes le long du Tarn. Donc voilà, j'en ai fait une et je ferai la deuxième. Donc c'est génial parce que l'idée, le boulot, c'est de faire l'itinéraire et après de reconnaître les points d'intérêt, les restos. Donc c'est un boulot chouette pour les vacances.
Ça a l'air sympa.
C'est très sympa.
Je peux venir avec toi ?
Écoute, la place est déjà prise pour cette fois, mais la prochaine, je t'emmène.
Et toi, Marga, t'as des plans un peu pour cette
année ? Ouais, alors niveau vélo, j'ai plein de plans, mais niveau vélo, comme j'ai une petite fille qui a moins d'un an, donc c'est vrai que ça limite forcément un petit peu la possibilité de voyager à vélo, mais c'est quand même possible de partir avec un bébé. Je vais tenter l'aventure. On va partir, je vais rejoindre mes frangines du côté d'Orléans, et on va tenter de faire une partie de la Loire à vélo, donc entre Orléans et Tours, avec donc un vélo et ma fille dans une petite charrette derrière. Donc voilà, c'est un peu moins de 140 km au programme, avec du camping au milieu. On va bien voir comment ça se passe, mais voilà, hein. C'est vrai que moi, d'habitude, quand je pars, je fais des itinéraires peut-être un peu plus longs. Ça nous est arrivé même d'en faire beaucoup trop, genre plus de 100 bornes dans la journée. Mais voilà, là, avec un bébé, on va voilà, partir plutôt sur du 30-40 km dans la journée, ce qui peut paraître beaucoup quand on ne connaît pas le vélo, mais finalement, sur du plat, en vrai, c'est un itinéraire qu'on peut faire en 3 heures dans la journée, 3 heures de pédalage. Donc vraiment, si vous voulez vous mettre au voyage à vélo, ne vous censurez pas par la peur des kilomètres, en fait, parce qu'il y a des trajets justement qui peuvent se faire sur du plat. Et on n'est pas obligé d'avaler les kilomètres en roulant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. On peut faire des belles sorties à 50, 60 bornes sans forcer, et en ayant le temps de pique-niquer, de se baigner, de visiter des trucs. Voilà.
Exactement.
Et pour le coup, je trouve que là, enfin, personnellement, on m'a emmenée en Camargue pour mon premier trajet en vélo. Et en fait, il y a vraiment tellement zéro dénivelé que c'est super pour commencer.
C'est une non-cycliste qui le dit. Hein, donc,
absolument.
Aller en Camargue faire du vélo. Et toi, tes projets moto, tu bouges un peu ?
Ouais, je pense que je vais partir à peu près tout le mois d'août. Et là, vu que j'ai pas exactement d'impératif, je suis en train de tracer 4 itinéraires différents et je pense que j'en aurai encore un 5e demain. Mais a priori, pour l'instant, ça part sur Alpes italiennes. Enfin, je vais passer par les Hautes-Alpes, puis Alpes italiennes, Alpes suisses. Et après, repasser en Bourgogne. Et ensuite, aller vers La Rochelle. Et après, passer par la Creuse et revenir à Marseille. Donc, ça fait à peu près 3000 km sur un mois.
Eh oui, un bon bout de route. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre merveilleux public. Vous êtes formidables. Encore un grand merci à l'Éco-Nature pour l'accueil. Pour être au courant de tous les events qu'elle organise, vous pouvez les suivre sur leur réseau @l'Éco-Nature. Donc ça s'écrit avec un K et tout attaché. Et puis merci à toi, fidèle auditrice, auditeurice. On est super heureuse de t'avoir avec nous, cœur, cœur, cœur sur toi. Cet épisode hors série Warrior on the Road est une proposition de l'équipe de Yes, donc moi-même, Elsa, Ezina et de la team de Culo, Créative, Malix et Jess. Alors c'est quoi les réseaux, Malix, pour retrouver vos contenus ?
C'est Culo Créative, donc Culo comme du culot, C-U-L-O-T-C-R-E-A-T-I-V-E, et c'est tout attaché sur Instagram. Et après, dans le lien dans la bio, vous avez aussi la newsletter qui est aussi accessible sur culocreative.com sur le site.
Ok, et nous, c'est toujours @yespodcast, yes, toujours, avec 3 S. Et si l'épisode vous a plu, rendez-vous sur votre appli de podcast pour nous mettre une note de 5 étoiles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se retrouve très vite, probablement le mois prochain, pour un nouvel épisode hors série sur la sexualité et les corps qui sortent des normes. On va parler des corps gros, des corps trans, des corps racisés, des corps non valides. Donc il se sera présenté par toi, Malix, et donc par Zina. D'ici là, n'oublie pas, ne lâche pas le guidon, on est à tes côtés pour que tu traverses des pentes verglacées, des déserts arides ou des collines fleuries. On ne te lâche pas jusqu'à ce que tu arrives à destination, et tu sais pourquoi ? Parce que tu fais partie de la grande communauté des Warriors. Yes !
Voilà.